Vincent de Sailly au second poteau. Et but !
But de Boli ! But de Basile Boli sur ce corner.
Eh bien,
extraordinaire coup de tête de mon Basilou.
26 mai 1993, l'OM de Basile Boli bat le grand Milan AC 1-0. À jamais, les premiers, les Marseillais remportent la Ligue des Champions. Je suis Julien Cellier, je vous souhaite la bienvenue dans ce second, dernier épisode d'un podcast exceptionnel. RTL et Focus, le podcast de la rédaction, fête les 30 ans du sacre marseillais. Dans le premier épisode, vous avez découvert les secrets de la réussite, cet avant-match unique des joueurs olympiens. Nous allons maintenant débouler sur la pelouse et revivre ce match de légende, puis les 24 heures d'ivresse collective qui ont suivi. À mes côtés toujours, Stéphane Tapie, le fils du président de l'époque, Bernard Tapie. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Avec nous également deux de ces champions d'Europe 1993, un défenseur titulaire à Munich, Eric Dimeco, et un milieu offensif, Jean-Marc Ferreri. Bonsoir les champions.
Bonjour Julien, salut Steph.
Salut Julien, salut Stéphane, salut à tous.
C'est donc l'heure, dans ce podcast, l'heure maintenant de pénétrer sur la pelouse de l'Olympiastadion de Munich. Il est 20h15 très précisément. Ce 26 mai 1993, le match le plus important de l'histoire de l'OM débute enfin dans une ambiance assourdissante.
C'est parti, premier coup d'envoi et le ballon qui était tout de suite pour Sauzet qui a relancé loin là-bas, mais Baresi est intervenu de la tête avec maintenant une nouvelle intervention et le ballon.
Et les 20 premières minutes de cette finale, elles sont particulièrement enlevées, vivantes, rythmées. Il n'y a pas tant d'observations et il y a plusieurs occasions franches de part et d'autre.
Albert Séné avec une tête qui passe juste à côté des buts de Fabien Barthez. Il y a eu danger sur cette reprise de la part de Ricciard avec Van Basten maintenant dans la surface de réparation. Centre de Van Basten avec le ballon qui roule là, là, là. Centre de Van Basten, reprise de Massaro et Barthez qui était pris à contre-pied. Voleur qui va tirer, renvoyé par avec peut-être le but non, juste à côté. Une superbe action marseillaise là. Un peu de hors-jeu sera peut-être un premier but pour les Milanais avec une occasion à accrocher sans doute de trop. C'est talonnade maintenant pour Van Basten. Tire de Van Basten, arrêt de Barthez.
Cet arrêt du pied de Barthez face à Van Basten, vu de l'extérieur, Stéphane Tapie, un, c'est un réflexe génial. Et puis quand on voit les 20 premières minutes du gardien marseillais, on se dit que l'orage peut passer, il y a quelqu'un dans la cage.
Il a bien fait de faire une petite sieste. Il en avait besoin. Fabien était sur un nuage, mais il était à la hauteur de ce qu'il sait faire. Et c'est sur ce match-là, ils étaient tous à la hauteur de ce qu'ils savent faire. Et c'est marrant parce que même encore, on est 30 ans après, Eric dit encore, c'était les meilleurs, ils étaient plus forts que nous. Non, ils n'étaient pas plus forts qu'eux. Voilà, ils peuvent le jouer encore plusieurs fois le match, hein, ils vont le gagner encore.
Après ces 20 minutes assez folles, le rythme va redescendre, les deux équipes cadenassent davantage et puis le jeu surtout devient très très rugueux. Si rugueux que Basile Boli prend un coup, il grimace, on joue la 21e minute. Hein. Basile Boli veut sortir. Et Stéphane Tapie, votre père, interdit à Boli de sortir. Votre père, il avait un talkie-walkie dans les tribunes.
Il avait un talkie, il était en liaison avec Bernès qui était sur le banc, qui lui-même parlait avec M. Raymond Goethals. Et c'est vrai que Basile veut sortir, mais il veut sortir parce qu'il croit qu'il va perdre. Donc son petit mal temporaire devient une catastrophe pour lui et qu'il ne veut pas revivre Barry. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est persuadé de ça, mon père ? Ça, j'en sais rien, mais il le sent comme ça. Et il dit non, il ne sortira pas.
Et l'interdiction de sortir, eh bien, ça fonctionne. Parce que Boli serre les dents, Boli ferme les yeux quand il décolle à la 44e minute.
Mais il est meilleur en général quand il ferme les yeux.
Quand il ferme les yeux, il est plus
au bon.
Quand il décolle à la 44e minute, les yeux fermés, donc pour permettre à l'OM de basculer dans l'histoire et l'irrationnel sur un corner obtenu et tiré par le virevoltant Abedi Pelé.
C'est le même Pelé qui va tirer ce corner. Le corner bien tiré avec une tête et but.
Marqué par
but de Boli. Basile Boli fait son premier poteau. C'est la folie là du côté marseillais. Boli est allé embrasser Pelé là-bas de l'autre côté pour le remercier.
Vous vous souvenez de ce que vous ressentez à ce moment-là, Eric Dimeco ?
Alors c'est oui parce que J'ai pas compris ce qui se passait. Donc j'ai vu un moulon au premier poteau et j'ai vu le ballon au fond des filets. J'ai pas compris qui l'avait touché, comment ça s'est fait. Moi j'étais en retrait puisque je gardais l'attaquant qui restait. On était deux. Je crois qu'il y avait Jean-Jacques et Deli avec moi. Et voilà, il y avait beaucoup de monde. Donc j'ai rien vu. J'ai juste vu à un moment donné les filets trembler. Je savais pas qui avait marqué. J'ai découvert ça juste en voyant les filets bouger. Ouais.
Et Jean-Marc sur le banc. Vous vous rendez compte tout de suite que c'est Boli qui marque ?
Sur le banc, c'était le meilleur moment pour marquer. On a marqué juste avant la mi-temps. On sait très bien dans ces matchs très fermés, d'avoir l'avantage de marquer juste avant la mi-temps, ça peut tuer une équipe adverse. Le scénario, il est vraiment idéal de marquer à la 44e minute dans ce match-là. Et on sait que là, il va falloir aller nous chercher en deuxième mi-temps, quoi, parce que je te dis, cette équipe a été faite avec des guerriers, et dans la tête des Milanais, tu prends un gros coup quand tu prends un but à la 44e minute sur corner comme ça, sur coup de pied arrêté.
Alors, vous rentrez au vestiaire quelques secondes après, poussé par 25 000 supporters en délire total. Vous vous souvenez de ce qui se dit pendant cette mi-temps, Stéphane Tapie ?
Alors, moi, je me souviens très bien que mon père vient s'asseoir à côté de Basile, il lui dit « ça va, ou tu veux toujours sortir ?» Mais c'est véridique. Non, mais j'avais mal. Ça va mieux, là. Ouais. Okay.
Donc ça allait mieux pour Basile Boli. Qui prend la parole à la mi-temps, Eric Dimeco, dans le vestiaire ?
Oh, il n'y avait pas eu tant que ça de discussion. Le coach, obligatoirement, d'abord, alors quand on rentre d'une première mi-temps comme ça, il y a un moment de calme pour faire redescendre un petit peu la tension. Raymond avait dû dire deux mots pour un petit ajustement tactique. Quand tu marques à ce moment-là du match, et connaissant les qualités qu'on avait et défensives et mentales, moi j'ai souvenir qu'on s'est dit bon mais c'est bon, on prend pas de but. Ah ben oui, là il fallait nous marcher dessus pour nous mettre un but, hein. Et en réalité quand on aura, et on va parler de la deuxième mi-temps, c'est un long combat pour pas prendre de but. Ouais. Mais à ce moment-là dans le vestiaire, d'abord il n'y a pas de grande discussion, et ensuite c'est les gars, on a fait le plus dur, maintenant ils marqueront pas, voilà.
Alors la seconde période, elle reprend. Très vite, une vieille connaissance fait son entrée sur la pelouse. On joue la 55e minute. L'ex-Marseillais, désormais Rossoneri, Jean-Pierre Papin, entre en jeu sous une bronca d'ailleurs.
Et changement avec l'entrée de Papin maintenant.
Papin remplaçant, c'est dire quand même la profondeur du banc de touche de Milan. Vous aviez compris, Stéphane, sa non-titularisation à l'époque ? Vous qui étiez proche de JPP ?
Oui, mais de toute façon, Jean-Pierre, il faut savoir que quand, à l'époque, il signe au Milan AC, il y a la fameuse loi des étrangers. Donc il y a les trois néerlandais, et puis il y a le petit français qui arrive pour se faire sa place.
Et Gullit est en tribune ce jour-là.
Et Gullit est en tribune. Mais parce qu'il fallait faire un choix sur les étrangers. Donc il a choisi de mettre Gullit dans les tribunes et Jean-Pierre sur le banc.
Vous échangez avec lui avant le match ou pas du tout ?
Avec Jean-Pierre ?
Ouais.
Ouais. Il a pas envie de le jouer, quoi. Il est super mal. Il est vraiment très mal. Il a envie de le jouer parce que c'est une finale de Ligue des Champions, mais il a presque pas envie de la gagner, quoi. Parce qu'il peut pas. Il a envie de la gagner comme compétiteur, mais il a pas envie de la gagner comme humain. Enfin, je pense qu'il devient schizophrène quelques jours avant le match. Hein.
Et JPP, il se fait remarquer d'ailleurs quelques minutes plus tard, 59e, il laisse traîner le pied.
Avec Eric.
Et ça chauffe avec Fabien Barthez et Eric Dimeco.
Corner qui est joué de la tête. Hop, et l'intervention de Barthez. C'est Papin qui a levé. Il y a un incident immédiatement avec Barthez. Il a levé le pied droit, Papin, et il a touché le coup droit de Barthez, et immédiatement, il a eu maille à partir, d'abord avec Barthez, et ensuite avec Desailly, Edli et Dimeco, évidemment. On est très très énervé. C'est le moins qu'on puisse dire, une scène de famille, et enfin d'anciens de la famille.
Et Dimeco, évidemment, comme si c'était naturel d'aller faire la police dans la surface de réparation.
Eric, c'est pas le genre Dimeco.
Sur les images, on voit que vous venez dire votre quatre vérités à Papin, ouais. que vous aboyez sur JPP. Vous vous souvenez de ce que vous lui dites à ce moment-là ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Alors, pour en revenir au cas JPP, je pense que le Milan a fait l'erreur qu'on a faite en 91, c'est-à-dire de ne pas faire jouer Stojkovic contre son ancienne équipe avec des adversaires qui auraient eu peur de lui. On craignait JPP, hein, c'est clair. J'avais pas envie de le voir sur le terrain. Donc déjà, de le voir sur le banc, ça m'avait rassuré. Ensuite, il y avait eu une petite interview dans le croisé dans l'équipe Cap Magazine le week-end d'avant, où JPP m'avait un petit peu allumé en disant si je joue, je sais comment lui faire péter les plots ou un truc comme ça. Et donc bon ben là, ça avait été de l'intox quoi, c'est-à-dire essayer de le. On l'avait vu rentrer, on avait vu son visage très très fermé. Stéphane disait
c'est vrai
qu'il
que les images sont extrêmement parlantes.
Moi, franchement, Stéphane disait qu'il avait pas envie de le jouer ou que c'était compliqué, mais je quand je vois les images aujourd'hui, je comprends la tension qui fait le quand je vois son visage, je comprends que c'est un mélange de motivation mais aussi de tension parce que c'est sa situation était pas évidente quoi et quand on l'a vu rentrer, moi j'ai vu son visage, j'ai vu qu'il était tendu et on le craignait, donc je savais que ou le premier ballon en contre ou le premier incident, il fallait lui monter dessus pour qu'il perde, alors perdre ses moyens, je sais pas si on lui a fait perdre ses moyens, en tout cas pour lui montrer que il nous ferait pas
qu'ils
mal quoi.
Qu'ils aient plus partie du camp.
Oui, voilà, exactement. Pour aussi peut-être lui dire, voilà, tu es notre pote, moi c'est mon ami en plus, JPP, mais ce soir non, tu es un ennemi quoi, voilà. Et donc c'est pour ça que, ouais, j'ai dû dire des mots pas très gentils. Je dois pas être fier. Enfin, je sais pas ce que j'ai dit, je m'en souviens plus, je veux plus m'en souvenir parce que ça devait pas être très très joli. D'ailleurs, Jean-Pierre m'en a voulu pendant un long moment derrière, donc ça devait pas être bien gentil ce que je lui ai dit.
La dernière demi-heure, l'OM est un modèle de résilience qui plie sans rompre, qui donne surtout l'impression d'avoir verrouillé le match. Le Milan semble de plus en plus impuissant. Jean-Marc, depuis le banc de touche, est-ce que vous avez senti à un moment donné, avec cette vision extérieure, que c'était fait, que Milan tirait la langue, était en train de capituler?
Oui, j'y arrive pas. Clairement, il y a peu d'occasions de but en deuxième mi-temps et nous, on est extrêmement solides. Moi, je me souviens à un moment donné, Raymond se tourne vers moi, il y a Alain Boxis qui prend un petit coup. Et qui voulait sortir, il nous regarde d'ailleurs sur le banc. Et Raymond se tourne la tête en disant prépare-toi, enfin à l'éventualité évidemment de rentrer. Donc je suis évidemment fou de joie de ça, de pouvoir rentrer dans cette finale, sachant que c'était extrêmement tendu. Mais clairement sur le banc on était plutôt assez confiant. Et puis surtout on avait confiance aussi en Fabien qui avait fait un match extraordinaire et des arrêts déjà fabuleux qui étaient vraiment dans son match. On savait que il serait très très dur à battre parce qu'il était dans une forme exceptionnelle et donc on avait ce rempart là, cette défense de fer plus le rempart de Fabien. Donc nous sur le banc on était plutôt assez confiant dans la deuxième mi-temps. Oui.
Et puis à la 92e minute, la libération, l'extase, le coup de sifflet final. Il est 22h03 et l'OM est champion d'Europe.
Parfait. Redégage tout de suite en touche, il trouve une touche, comme on dirait dans son pays de rugby, à la Blanet. Sassotti lui fait signe au ramasseur de balles de s'agiter pour récupérer ce ballon, jouer rapidement la touche. Un centre en profondeur, Massaro devancé par Boli. Encore une tête.
Il aura fait un bon match, Boli. Hein.
La tête de Boli qui aura été efficace, non seulement devant ses finis.
C'est un moment hors du temps, les larmes de Bernard Tapie, le sprint du sexagénaire Raymond Goethals, Basile Boli qui se dirige vers les supporters avec ce geste devenu légendaire. Non, cette fois-ci il n'y a pas de larmes, le traumatisme de Barry a disparu, Marseille règne sur l'Europe, la foule est dans délire. Éric Dimeco, est-ce que vous avez des souvenirs précis de ce moment, de cet instant où l'arbitre suisse siffle la fin de cette finale?
C'est peut-être le seul moment où je me souviens vraiment... parce que c'était tellement dur à la fin que je l'attendais ce coup de sifflet. Voilà, et il était long à venir. Et on sent quand c'est la fin du match, hein, tu te tournes vers la. Alors même si tu n'as pas l'horloge, mais tu avais quand même le si tu n'avais pas le chrono, tu avais quand même l'horloge. Donc on savait qu'on était. Et on attendait. Et je l'avais déjà imaginé ce coup de sifflet avant qu'il le donne. Et c'est pour ça que je l'entends encore retentir ce coup de sifflet, parce que c'était une libération. Voilà, là à ce moment-là, tu te rends compte de ce que tu as fait pendant 90 minutes, 92 minutes, tu es en apnée parce que le match est dur. mais le coup de sifflet, c'était la chose que à la limite tu revois presque toute ta carrière à ce moment-là, en te disant putain, mais d'où on vient, d'où je viens pour arriver à gagner cette Coupe d'Europe contre ces mecs, quoi. C'était assez. J'ai vraiment un souvenir prégnant de ce moment-là et de ce coup de sifflet qui retentit dans mes oreilles. Ouais.
Stéphane Tapie, vous avez un souvenir précis de ce moment-là, cette libération?
Ouais, il y a plein d'émotions. Il y a la joie, il y a la. il y a. Moi, je regarde tout de suite le virage des Marseillais et quelle fierté de leur offrir ça. Parce que ça fait des années et des années et des années qu'ils voient que ça arrive, qu'ils voient que ça va pas tarder à arriver. Et là, c'est enfin la libération et qu'un mec comme Eric, en plus, qui était là au tout début,
formé au club,
tout début, celui qui s'est fait appeler longtemps le Minot, partout, par ce quoi il est passé. Dans le club, même avec mon père, ils n'avaient pas de très bonne relation au départ. De voir arriver à cet aboutissement, c'était à l'image de Marseille, quoi. Mmh. C'était dans la douleur, mais on y est arrivé.
Il y a une autre image qui reste dans les livres d'histoire, c'est le moment où le capitaine Didier Deschamps soulève la coupe aux grandes oreilles.
Didier Deschamps qui arrive, qui est félicité par Lennart Johnson et qui prend la coupe d'Europe et qui l'a.
Et une conférence de presse ensuite va s'improviser dans le vestiaire, en fait, avec un Bernard Tapie très très ému.
Quand on voit les yeux de ceux qu'on a l'habitude de voir, on se rend compte que ça leur a vraiment fait un plaisir. Je ne sais pas si on pouvait leur faire un autre plaisir aussi grand.
Alors vous, on a vu des larmes à vos yeux, ça n'a pas dû vous arriver souvent, récemment, au moment du coup de sifflet final?
Pas souvent, non, mais là je crois que c'était pas possible de se retenir, quoi. Et il y en a plein comme ça, j'en ai vu des très sérieux qui craquaient aussi, ben voilà.
Vous l'avez vécu comment, ce but de volley? C'était une première explosion?
Ouais, mais j'avais la trouille encore, hein. Parce qu'il est resté encore, il restait encore beaucoup de temps, donc j'étais pas tranquille. Mais enfin voilà, maintenant que c'est fait, on est vachement heureux. J'espère que vous êtes tous contents.
Et on était tous contents. Les larmes de votre père, Stéphane, ce moment où l'armure se fend, ce n'était pas très courant?
En public, ça a été la première et la dernière fois. Mais ouais, puis c'était un parcours de 10 ans pour arriver là, parce que ça se gagne pas que en un soir, ça se gagne en la construction de tout un groupe, de tout un club, de toute une ville. Parce que Marseille, c'est une ville d'abord, c'est une ville. Après, c'est un club. Après, c'est des joueurs. Après, c'est un président. Bien après. Donc ouais, c'était des vraies larmes de joie de voir. Autant de bonheur partagé.
Dans ce vestiaire, il y a aussi les mots du héros du jour, le buteur, Basile Boli.
Mes pleurs ont été historiques. Et là, c'est mon but qui va être historique. C'est une victoire de toute la France qui va être historique.
Et au moment où vous la frappez, vous réalisez que ça va aller au fond ou vous avez...
Je réalise que j'ai pris l'avantage sur mon adversaire, mais je ne réalise pas qu'elle va au fond.
Il admet, Eric Dimeco, qu'il ne savait pas qu'elle allait au fond.
Même si il est plus adroit avec sa tête qu'avec ses pieds, Basile. Donc
ça, c'est moins compliqué de dire.
Non, mais c'est vrai que c'est, l'image, moi j'ai encore celle, la photo de l'équipe où on le voit à la lutte là au milieu de, et notamment aux côtés de Rijkaard. Voilà, même si c'est son point fort, ça se joue au millimètre près, des croisés, deuxième poteau, petit filet. Bon, voilà, c'est la réussite du vainqueur. Ça, il faut toujours un petit coup de pouce. Et c'est ce qui s'est passé, mais pour revenir à ce qu'a fait Bernard Tapie, puisque nous l'oublions pas, quand il arrive en 86, il se cache pas, hein, il explique qu'il va faire une grande équipe, qu'il veut être champion de France et qu'il veut gagner la Ligue des Champions. Et quand on regarde les joueurs qui ont défilé depuis 86, je parlais tout à l'heure de ce qu'il faisait, quand ça gagnait pas, mais c'était exactement ça, voilà, c'est-à-dire que tu rentrais dans le schéma. soit tu étais fait pour aller atteindre ses objectifs, soit tu partais à une autre arrivée. Voilà, donc il nous fliquait dès qu'il savait qu'on sortait, parce qu'il savait tout ce qui s'est passé à Marseille. Dès qu'on n'était pas sérieux, on se faisait tirer des oreilles. Dès qu'on sortait un petit peu trop, on se faisait tirer des oreilles. Dès qu'à l'entraînement, on était un peu moins bien, parce que bien sûr, il savait tout ce qui se passait, on se faisait tirer les oreilles. Donc voilà, il a fait, je veux dire, le moi, je pars du principe toujours que ce que j'ai fait pendant 6 ans avec Bernard, j'ai été à 120% de mes possibilités et j'ai jamais été aussi fort et j'aurais pas pu faire mieux ailleurs dans un autre contexte. C'est pas possible.
Tous les joueurs ne restaient pas à Marseille, tous les entraîneurs non plus, mais cette finale, c'est aussi l'apothéose pour le coach de l'époque, le magicien, le sorcier belge, la plus belle des sorties pour Raymond Goethals, 72 ans à l'époque.
Pour la France, pour Marseille, vous gagnez votre première Coupe d'Europe, c'est la Coupe... la plus grosse que vous gagnez, comme on dit. Et pour moi, c'est une fin de carrière que je ne pouvais pas rêver de mieux.
Sauf pour votre respect, Raymond Goethals, vous êtes un vieux monsieur maintenant, vous tirez votre révérence.
Absolument, comme je l'ai dit, moi déjà jouer la finale était déjà tout un programme. La finale des Coupes des Champions, on l'a gagnée, c'est encore mieux.
C'est très émouvant d'entendre Goethals qui referme une vie d'entraîneur sur la plus belle des victoires. Jean-Marc Ferreri, vous aviez conscience à l'époque, vous les joueurs, de l'importance aussi pour lui, pour ce vieux monsieur, comme dit le journaliste de l'époque, pour lui de ce succès.
Et d'autant que moi, je l'ai bien connu quelques saisons auparavant avec les Girondins de Bordeaux. On avait fait d'ailleurs une grosse saison avec Klaus Sallofs notamment devant. Et on était d'ailleurs cette année-là à la bourre un petit peu en rivalité avec l'Olympique de Marseille. Donc j'ai connu à nouveau Raymond dans un autre contexte. Et pour ce qu'on avait vécu à Bordeaux ensemble, et puis évidemment... ce qu'on a avec ce titre de champion d'Europe, pour Raymond, c'était un homme exceptionnel, hein, vraiment un homme extraordinaire, très attachant, pas du tout le stéréotype de l'entraîneur, d'un entraîneur qu'on peut voir aujourd'hui sur les terrains. Il y avait vraiment le côté humain qui prédominait chez cet homme-là, et il nous faisait tactiquement aussi, il était très très fort. Et il nous donnait aussi des valeurs humaines fantastiques. C'est un entraîneur qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière.
Alors, folie à Munich et puis folie à Marseille, bien entendu, parce que la ville, ce soir-là, bascule un petit peu dans l'irrationnel. Écoutez ce reportage RTL, c'est quelques minutes seulement après le coup de sifflet final.
Vous imaginez bien qu'on est obligé de se cacher un petit peu pour pouvoir parler dans un micro, parce que tous les supporters veulent parler, dire leur joie, dire que Marseille sent bon le thym et le romarin ce soir. Vous entendez le concert de klaxon, je suis à quelques pas de la Canebière, c'est une folie totale. Les jeunes gens sont torse nus sur les voitures, ils déambulent sur les toits des voitures. J'ai vu un groupe du troisième âge, et oui, faire une farandole en disant « Allez l'OM, l'OM est le meilleur, l'OM est le meilleur ce soir ». Eh bien voilà, c'est ça ce soir les rues de Marseille. Alors Bernard Chélan, on va le retrouver maintenant, il est tout près du Vieux-Port, et là, on risque de tomber à la mer, Bernard.
Eh bien écoutez, on est déjà tombé à la mer, j'ai vu de mes yeux vus quelques supporters marseillais se jeter à l'eau.
Alors... à l'époque, il n'y a pas les smartphones, il n'y a pas les réseaux sociaux. À quel moment, Éric Dimeco, vous prenez conscience de la liesse dans les rues de Marseille? À quel moment vous voyez des images de cette fête sur le Vieux-Port?
Alors, je me retrouve en studio, dans le studio de TF1 d'interview avec Jean-Michel Larquet, qui me montre des images de ce qui se passe à Marseille. Et c'est là qu'on se rend compte de la folie, puisque le Vieux-Port est envahi. C'est les images qui me sont montrées juste après le match, du coup. Et là, on se dit, aïe. Bon, on avait vu la folie dans les tribunes, bien sûr, mais là, on s'est dit, aïe, aïe, aïe. Là, on a fait un truc énorme, et surtout, le retour demain va être extraordinaire. Ouais.
La nuit va être courte pour les supporters, pour les joueurs aussi. Tiens, écoutez cette archive, Éric Dimeco, c'est le lendemain matin.
En bas, il y avait une boîte de nuit avec un groupe qui jouait, et puis bon, on est descendu au départ juste pour boire un petit coup et pour rentrer, puis on s'est mis sur la scène et on a fait un petit peu les fous avec eux, on a chanté, on a joué des instruments, bon, enfin, on a improvisé, quoi.
Bon, il y a prescription maintenant, Éric Dimeco. Cette nuit de fête, vous en avez des souvenirs? Ouais, ça s'est poursuivi à l'hôtel, c'est ça?
Oui, mais on est rentré de suite à l'hôtel. C'est à l'hôtel qu'on a voulu rester un petit peu plus ensemble et boire un coup. Il y avait une espèce de boîte, mais où il y avait personne. Hein. Il y avait que nous, puisque l'hôtel était que pour nous. Donc il y avait des instruments. On a fait les cons entre nous, mais ça n'a pas duré longtemps parce que d'abord on avait un match important contre Paris quelques jours plus tard où les titres allaient être en jeu. Et puis Bernard, à un moment donné, il est venu nous tirer les oreilles parce que parce que ça faisait trop longtemps, quoi. Donc la fête a été courte, elle a pas été très arrosée, elle a pas été folle non plus, quoi. Voilà, on a voulu rester un petit peu plus longtemps ensemble et profiter, mais j'arrive même pas à m'imaginer à quelle heure on est allé se coucher, mais ça devait pas être plus de 2h du matin, quoi. Pas plus, hein.
4h30.
4h30 ? Ah merde. Bah voilà, tu vois. Tu es sûr, je pense que
4h30 en ouais, mais moi je pense que je viens de faire rentrer les derniers.
Et moi je pense que je suis allé me coucher à 2h, j'étais sérieux moi.
Alors en tout cas, le lendemain, le staff de l'OM réveille les journalistes endormis dans les canapés du hall de l'hôtel avec, paraît-il, quelques coupes de champagne vides qui traînaient sur les tables. Ces reporters, ils montent avec vous les joueurs dans la caravelle d'Air Provence qui rentre à Marseille avec beaucoup de retard d'ailleurs et qui était très très attendu.
Depuis le temps qu'on y va, comme au charbon, là, ce qu'on a eu, on l'a ramené grâce à Basile. Bravo, Basile.
Il faudra 4 heures en quart, c'est ça, pour arriver au stade Vélodrome. Vous vous souvenez de la marée humaine sur le passage, Stéphane Tapie ?
Ah, c'était surréaliste. C'était surréaliste. Entre Marignane et le stade, c'était une horde. C'était une haie d'honneur. Voilà. Ça a duré, ouais, 4h15.
Eric,
on met un quart d'heure normalement.
Ouais, non, mais ça faisait même peur parce que ils nous ont fait, c'est ça, la haie d'honneur de Marignane au stade Vélodrome. Donc vous imaginez, ça fait 25, une vingtaine de bornes avec de l'autoroute, pas mal. Donc les gens nous attendaient, ils étaient perchés sur les lampadaires, sur les arbres, et surtout il y avait des voitures et des scooters et des motos qui nous suivaient, mais qui nous suivaient super proches, quoi. Et donc c'était impressionnant parce que c'était les gamins qui faisaient les cons, là. Et à un moment donné, on s'est dit, pourvu qu'il y ait pas d'incident, quoi. Parce que les gens étaient en extase, étaient fous, quoi. C'était très très impressionnant. Et l'arrivée au stade Vélodrome et la sortie du tunnel dans le stade Vélodrome, qui normalement contenait 50 000, mais je sais pas, ils avaient dû faire entrer 70 000 personnes, puisque là il y avait pas de billets, il y avait rien, c'était open bar, hein. Et là on a pris une claque, là. Quand on est rentré sur le terrain, on a pris une grosse claque.
Il est rempli à bord, ce stade, il est volcanique, il n'attend qu'une chose, voir la coupe, et vous pouvez enfin la présenter. Écoutez Basile Boli sur la pelouse.
Basile Boli, c'est un jour exceptionnel pour vous, n'est-ce pas ?
Exceptionnel dans ma carrière sportive, mais cela dit, la coupe pouvait qu'arriver à Marseille. Il n'y a pas une autre ville qui pourrait accueillir un tel public. L'engouement était extraordinaire. Je pense que Marseille mérite cette coupe.
Marseille mérite cette coupe. On entend le bruit, la ferveur derrière Basile Boli qui est obligé de crier pour se faire entendre. C'est vrai qu'il est très symbolique, ce moment. C'est la ville qui s'empare de la coupe en quelque sorte. Ça tenait tellement à votre père, Stéphane. Vous vous souvenez de son émotion lorsque lui, il est rentré sur la pelouse ce jour-là pour montrer cette coupe au peuple marseillais?
Ah ouais, c'était sa plus grande fierté. C'était de leur montrer à eux. De faire de Marseille la capitale européenne du foot. Et avec le trophée, le plus grand, le plus beau.
Il y a un autre symbole avec votre papa, au-delà du Vélodrome, c'est cette réception des héros au Conseil Général. Chaque joueur, chaque membre du staff reçoit une médaille, et là, Bernard Tapie donne sa médaille à Depay, le regretté Patrice de Peretti, supporter iconique du virage nord, au torse, toujours nu.
Moi, si vous me le permettez, vous en referez faire une, et la mienne, j'aimerais l'offrir à celui qui symbolise tellement cette ville, qui pour moi est le symbole même. À Depay, voilà.
Ce geste, il est puissant parce que votre père, à travers Depay, il donne la médaille au public, en fait.
Oui, et puis Depay, il était partout, quoi. Partout. De tous les déplacements, la première Coupe d'Europe, le premier déplacement où on l'a vu, c'était à l'Ajax, Eric.
Oui, oui.
Et voilà, et il a lancé la mode, on voit un mec torse nu, c'est quoi ? Et voilà, Depay a lancé la mode dans le milieu sportif du supporter torse nu.
C'est le symbole, ouais. Eric, c'est la fidélité, la ferveur de ce public qui est récompensé à travers ce geste.
Ah, oui, moi j'ai souvenir, puisqu'on fait on a un match à Berlin en plein hiver, ou je sais plus, mais il faisait
oui, c'est
froid,
vrai.
Et lui il était torse nu, alors c'était pas le seul, c'était un supporter emblématique, jeune, mais il représentait tous les autres qui étaient tout aussi extraordinaires, attention, hein. Oui, moi combien de fois je l'ai ramené, parce qu'il venait voir les entraînements, et puis après il était là. Bon, moi je partais souvent en dernier du vestiaire, Et en sortant, je le voyais là, et je lui disais, mais depuis que tu rentres comment? Je sais pas, et je dis, allez, monte.
Comme je suis venu.
Et je le ramenais en ville, j'ai jamais su, quand je lui disais, je te ramène où, il se faisait déposer à Castellane, je savais pas où il habitait, voilà, il a toujours été un petit peu original, voire marginal, mais par contre, l'OM, c'était sa vie, quoi. Combien de fois il m'a raconté qu'il partait en déplacement, il dormait dans les gares, enfin bon, ça a été un des supporters les plus marquants. Bon, il y a eu Rachid aussi qui était avec lui au départ aux Winners. Alors moi, en plus, j'étais parrain des Winners au tout début, donc j'ai vu ces gamins grandir et évoluer dans le monde des supporters depuis leur adolescence jusqu'à encore aujourd'hui, puisque Rachid, je le vois régulièrement ici à Marseille.
C'était le symbole de la relation fusionnelle entre les joueurs et ce public absolument formidable à cette époque, même si c'est encore toujours le cas, bien entendu.
Et il a une vertu, ce public. Il pardonne tout à ses joueurs, même les défaites, s'ils ont l'impression qu'ils ont tout donné. Il n'y a qu'à Marseille que ça.
Ouais, c'est toujours le cas, puisque l'équipe cette saison, qui a perdu beaucoup de matchs à domicile, j'ai rarement vu le public gronder, parce que c'est une équipe généreuse, avec ses limites, mais ses qualités aussi, et c'est pour ça que le stade est plein, et c'est pour ça que les supporters ont été très cléments avec l'équipe cette année. Donc ça, c'est vrai que ce sont des connaisseurs.
Et c'est pour ça que ce club est unique, et l'extase, elle se prolongera quelques jours plus tard, en cette fin 1993, le week-end suivant, avec une victoire face au rival, face au PSG, avec un nouveau but de légende de Basile Boli dans un vélodrome en délire.
Celui-là, la construction.
Il était magnifique. C'était il y a 30 ans, l'euphorie, l'ivresse collective, les Marseillais à jamais, les premiers régnaient sur l'Europe. À ce jour, on le rappelle, aucun club français n'a réédité cet exploit et n'a gagné cette coupe aux grandes oreilles. Merci Stéphane Tapie, merci Eric Dimeco, merci Jean-Marc Ferreri d'avoir participé à ce podcast exceptionnel, de nous avoir raconté vos 25, 26, 27 mai 1993, vos souvenirs de ce match de légende.
Ce qui était racontable.